Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme la semaine dernière,
c'est Anne Cloval.
Qui est toujours maître de conférences en sciences politiques à l'université de Paris 10 Nanterre et toujours membre du laboratoire d'analyse des systèmes économiques, de la déformation politique. Et c'est justement bien parce que pour une fois je tenais quelqu'un qui était maître de conférence non pas en économie mais en sciences politiques. Je me suis dit je vais la réinviter une deuxième semaine pour nous parler de l'évolution et en particulier de l'évolution de la gauche. Parce que moi le sentiment que j'ai actuellement c'est un sentiment d'autisme et de mépris du Parti Socialiste. Alors Fabius au soir du 21 avril parlait de problèmes d'offres politiques. Bah oui, on lui faisait pas dire. Pour quelqu'un qui comme moi est de gauche, faut quand même le dire, qui est attaché à une certaine forme de mythologie de la gauche, à Jaurès, à 36, etc. Quand je vois ce qui est devenu le Parti Socialiste, je suis parfois un peu étonnée, pour le moins, d'autant plus peut-être qu'on entend un Lang appuyer son... enfin, vouloir valider le fait que les membres du Parti Socialiste ont dit oui à la Constitution européenne par un attachement aux valeurs du socialisme telles qu'elles existaient avant et en particulier en le liant à Jaurès. Enfin, là, ce jour-là, j'ai un peu failli m'étrangler devant mon café. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, quoi, en gros? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Parti Socialiste?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Bon, d'abord, pour Lang, on pourrait dire que se rattacher en fait à Jaurès est un moyen de construire une filiation, donc de rattacher les transformations qui sont opérées à donc un passé valorisé, etc. Bien, c'est peut-être sans doute la seule chose qu'il leur reste à faire à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Bon, effectivement, lorsqu'on regarde les prises de position de Parti Socialiste, le discours que ses dirigeants tiennent, etc., on s'aperçoit que les classes populaires, bon, vous allez dire que c'est une obsession chez moi, je la revendique, donc par rapport à la classe ouvrière, bon, par exemple, il s'est opéré dans le cours du temps un certain éloignement. On peut même dire que chez eux, il y a eu une forme d'abandon, volontaire ou involontaire, bon, peu importe, bon, par rapport aux plus fragiles économiquement et socialement. Comment l'interpréter? C'est un peu votre question. D'abord, ce dont il faut se rappeler, c'est que lors du 21 avril, l'explication de l'échec de Jospin a été justement celui-ci. Le Parti Socialiste aurait échoué, bon, parce qu'il se serait éloigné des classes populaires. Bon, c'est la phrase de Morroy, bon, par exemple, qui dit que dans le vocabulaire de Jospin, on ne voyait pas apparaître le terme ouvrier et bon, c'était une explication un peu sociologique qui était avancée pour expliquer donc l'échec de Jospin. On peut dire qu'avec les régionales qui ont eu lieu il y a quelques mois, le discours s'est renversé. C'est-à-dire que non, ce serait pas en fait une explication sociologique, c'est-à-dire de tendance longue et lourde, mais le 21 avril aurait été un simple accident. Ce serait donc un accident de parcours qui serait lié, bon, à la conjoncture, bon, etc., au fait que la campagne électorale aurait été uniquement axée sur la sécurité, etc., ce qui aurait fait que les électeurs se seraient orienté vers le Front National, à l'inverse des régionales, donc où ils auraient retrouvé enfin leur ancien vote. Donc du coup, maintenant, on est plutôt dans une thèse sur l'accident. Le pauvre Jospin n'aurait pas eu de chance, mais maintenant, tout va aller en fait pour le mieux. Ça donne une vision en fait de l'électorat comme un électorat versatile, c'est-à-dire il peut changer d'une année sur l'autre. De comportement, ce qui sociologiquement bien sûr ne tient pas. Donc, et ce qui est d'ailleurs une autre manière de continuer à faire ce qu'ils ont fait en fait depuis 1983, si l'on peut dire, de se détourner en fait des préoccupations des plus vulnérables. Comment en fait l'expliquer? Ben, il y a plusieurs raisons. Là, je vais m'appuyer sur des travaux de Rémi Lefebvre et de Frédéric Savicky, qui sont des connaisseurs en fait de Parti Socialiste et qui enseignent à Lille et qui nous disent qu'on pourrait en fait avancer trois grandes raisons à ce retournement en fait de Parti Socialiste par rapport à sa tradition ancienne qui était de représenter sinon la classe ouvrière mais au moins quand même une large fraction du monde ouvrier. Il y a d'abord le problème de discours. Et effectivement, de plus en plus chez les socialistes, on voit apparaître un discours qui ne fait plus référence aux inégalités sociales, à la lutte sociale, aux rapports de domination, etc. On parle des salariés et des non-salariés. On n'évoque plus les ouvriers, les employés, etc. Donc un discours qui se serait en quelque sorte atténué, euphémisé, bien pacifié. Hein. Il n'y aurait plus de conflits sociaux, il y aurait plus de lutte des classes. Bien, c'est pas, je ne dis pas ça pour renvoyer en fait à un temps ancien et reprenez la lutte sociale. C'est pas ça, mais le discours est très important parce que c'est ce qui donne sens et signification aux expériences sociales vécues en fait par les gens. Et donc du coup, en ne parlant plus des ouvriers, des employés, de la classe ouvrière ou des grands ou de grandes identités en fait sociales, les socialistes ne donnent plus sens et signification à l'aggravation des inégalités sociales qui a cours à l'heure actuelle. Donc du coup, ces gens, ces fractions sociales, ne peuvent plus se reconnaître dans l'offre de Parti Socialiste. Alors ça c'est le premier point. C'est ce qu'on a vu donc la fois dernière avec le détour par l'abstention qui est de plus en plus celui des groupes sociaux les plus fragiles. Mais en se focalisant quand même sur la classe ouvrière ou sur les ouvriers, ça nous empêche de voir aussi d'autres érosions électorales dont est le lieu en fait le Parti Socialiste. Par exemple, les enseignants, les fonctionnaires qui se détournent de plus en plus de vote en faveur du Parti Socialiste. Ça, c'est un phénomène récent et extrêmement important. Et ces fonctionnaires, ces enseignants, soit s'abstiennent, soit votent pour d'autres organisations politiques, soit ont un vote intermittent, c'est-à-dire ils votent une fois, ils s'abstiennent une autre fois. Et puis, lorsqu'on fait des entretiens en fait avec eux, on s'aperçoit que leur vote est de plus en plus un vote faute de mieux. Donc un vote un peu désespéré, si l'on peut dire. Donc éloignement par rapport aux fractions les plus fragiles, comment encore l'expliquer? Mais on peut dire que s'est opéré dans le cours du temps une forme de professionnalisation des représentants de Parti Socialiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a bien sûr, s'est opéré dans le cours du temps, une hausse du recrutement social chez eux. Ce sont de plus en plus des énarques, des cadres du supérieur. Ils sont de moins en moins issus de la classe ouvrière, s'ils n'ont jamais été. Mais même leurs origines sociales sont de plus en plus hautes. Donc on peut évoquer l'embourgeoisement des représentants de Parti Socialiste. Mais c'est pas simplement ça. C'est-à-dire que de plus en plus, on a affaire à des élus et à des anciens élus, même au niveau local, ceux qui représentent le Parti Socialiste occupent de plus en plus souvent, en fait, des positions électives. Et donc, du coup, ça crée une séparation, une coupure avec les groupes sociaux qui, eux, bien sûr, n'ont pas de représentants élus. Ça a un autre effet. Ça a un autre effet, c'est de réorienter, si l'on peut dire, les représentants du Parti Socialiste vers des enjeux strictement électoraux. Bon, bien sûr, il faut qu'ils se fassent se réélire. Ce sont des élus, il faut qu'ils se fassent se réélire. Donc, ils se réorientent de plus en plus vers des enjeux électoraux. Et donc, du coup, ils ont hein, comme je vous le disais la fois dernière, une conception de l'élection très rationalisée. Ce qui importe, ce sont les résultats électoraux et non pas le fait de rassembler le plus grand nombre autour de votes, hein, bon, par exemple. Et donc une conception de l'élection également assez particulière et on pourrait la dire rationalisée, c'est-à-dire qu'ils pensent que ceux qui remportent l'élection, ce sont en fait les meilleurs. Donc s'ils échouent, c'est qu'ils n'ont pas été bons, et notamment qu'ils n'ont pas été bons en termes de... soit de communication, soit qu'ils n'ont pas assez bien expliqué quels étaient leurs programmes. Hein. Donc en quelque sorte, soit les électeurs n'ont rien compris à ce qu'ils bien proposaient, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été votés, ça a été aussi une des explications qui a été avancée donc le 21 avril. Hein, Jospin aurait très mal fait sa communication, mais surtout les électeurs étaient en fait responsables. Ils n'ont rien compris en fait au très bon bilan de gouvernement Jospin. Donc, soit ce sont les électeurs qui sont fautifs, ils ne comprennent rien, soit, effectivement, ça renvoie à des défauts de communication. Donc, il faut recommencer à bien expliquer. Et notamment, si on explique bien, il faut, en fait, bien expliquer dans les médias. Hein. Donc, le plus important, maintenant, c'est de moins en moins, en fait, le militantisme, hein, mais c'est de plus en plus, en fait, la média. Donc, il faut s'expliquer dans la presse, dans les sondages, à la télé, etc. Et de moins en moins, bon, par exemple, s'appuyer sur des réseaux bien militants.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie d'Annie Colovald, donc qui nous parlait de l'évolution de la gauche, et en particulier du Parti Socialiste. Il y a un petit truc, non pas que je comprends pas, mais qui m'agace prodigieusement en réalité. Là, tout à l'heure, vous disiez que l'évolution des choses est telle que finalement, les dirigeants du Parti Socialiste analysent les choses en termes de difficultés de communication, de mauvaise communication. Ils nous disent qu'on n'a pas compris grand-chose et du coup, ça génère tout ce discours sur il faut qu'on explique mieux, il faut qu'on soit pédagogue. Et on a l'impression qu'ils ne se rendent pas du tout compte que non, pas besoin d'être plus pédagogue, on n'est pas du tout d'accord avec eux. On a l'impression justement d'une espèce d'autisme, d'enfermement, de mauvaise compréhension, tel qu'ensuite ça peut avoir deux conséquences, soit effectivement on vote plus à gauche, auquel cas on va invalider notre vote en disant justement qu'il est extrémiste, qu'il n'a pas de vraies valeurs, que c'est une sorte de mécontentement qu'on voudrait exprimer, ou alors on va s'abstenir. Enfin, l'attitude du Parti Socialiste ne me semble pas pouvoir déboucher sur quelque chose de très positif.
Il y a plein de choses, mais non, c'est... Alors, cette attitude, bon, je vous l'ai dit, d'éloignement, bon, par rapport aux classes populaires, de réorientation, bon, par rapport donc aux élections, ça a un effet, en fait, extrêmement important. C'est-à-dire que ils ne voient la concurrence, comme importante que par rapport à la droite. Hein. Et du coup, toutes les oppositions, et notamment donc les oppositions liées à l'extrême gauche, par exemple, sont vues comme inadmissibles, inacceptables, etc., puisque ça remet en cause, en fait, le programme, le bon programme, hein, qui serait le leur. Bien. Donc il y a une invalidation comme ça des extrêmes, et notamment donc de l'extrême gauche. Pour invalider donc l'extrême droite, il n'y a pas de problème. Alors c'est important aussi parce que ça a un autre effet, ça disqualifie, je crois, et également le recours au militantisme. Or, une des raisons du succès, si l'on peut dire, du PS assez longtemps, c'est qu'il s'appuyait sur des réseaux bien militants extrêmement forts. Et notamment sur des militants par exemple, appartenaient à des syndicats. Or, on voit dans le recrutement à l'heure actuelle, cette affiliation-là est de moins en moins importante. Ou sur ce qu'on appelait le pluri-engagement, c'est-à-dire sur des militants au PS qui appartenaient aussi donc à des syndicats, mais aussi à des associations, etc. Cette forme-là, également, est en train vite disparaître. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus affaire avec le PS à ce qu'on peut appeler des mono-militants. Donc du coup, qui ne réussissent plus à cerner et connaître les évolutions qui se passent dans différents univers sociaux, et notamment donc dans des univers sociaux les plus simples, par exemple. Hein. Donc il n'y a pas de remontée, si l'on peut dire, et de mise en forme et de mise en sens de toutes ces expériences sociales très éprouvantes que vivent les gens les plus vulnérables à l'heure actuelle. Bien. Donc un abandon en fait de militantisme, ça se voit aussi avec le recrutement des jeunes, bon par exemple, qui s'opèrent à l'heure actuelle au Parti Socialiste. On fait de plus en plus appel à des jeunes qui viennent de Sciences Po, qui ont plutôt ce qu'on peut appeler un habitus de cadre, et donc qui vont raisonner eux aussi en termes de com, hein, la bonne com, bon, mais pas du tout de militantisme sur le terrain. Bien. Et donc du coup ça va démoraliser, si l'on peut dire, les vieux militants qui, eux, sont plus dans l'interaction de face à face, c'est-à-dire qui aiment aller voir les gens, discuter en fait avec eux, etc. Donc on voit bien la réorientation qui est en train de s'opérer au Parti Socialiste vers des formes de campagne électorale qui sont les campagnes électorales de la droite, hein, donc misées sur les médias, sur les sondages, bon, etc. et plus du tout donc sur les militants. Alors, comment faire, hein, effectivement, quand on ne se reconnaît plus, en fait, dans cette offre électorale et politique? Il me semble que y a plusieurs solutions qui prennent appui un peu sur ce que je viens de vous dire. Bon, le plus important, me semble-t-il, c'est de faire rentrer à nouveau dans les représentations les préoccupations des plus simples. Comment les faire rentrer en fait à nouveau? Eh bien, c'est d'essayer de refaire le lien avec la classe ouvrière ou avec les groupes ouvriers, bon, par exemple, essayer de les rencontrer, les faire monter dans les associations qui sont les nôtres et non pas qui sont les nôtres ou qui sont celles qui se mobilisent le plus à l'heure actuelle et qui, bon, bien souvent recrutent dans les classes moyennes éduquées, sont bien souvent en fait les enseignants. Faut pas se leurrer. Qui se mobilisent, mais il faudrait essayer de renouer en fait les contacts avec les classes populaires. Il faudrait aussi renouer les contacts avec les syndicats. Je pense que on peut avoir des jugements extrêmement bien critiques à leur égard, mais ça n'empêche qu'ils constituent à l'heure actuelle des collectifs qui prétendent représenter les causes des plus simples. Et puis, autre manière de s'opposer, hein, c'est de continuer à militer ailleurs. Rien ne vaut la constitution de ce qu'on peut appeler des contre-pouvoirs. Après tout, dans une logique de concurrence, on peut rappeler à l'ordre, hein, rappeler à l'ordre en montrant donc d'autres gens que ceux que l'on a l'habitude de voir, faire entendre d'autres gens que ceux que l'on a l'habitude d'entendre, mais de monter aussi dans des associations sur des propositions autres que celles que l'on a l'habitude d'entendre. Et sous cette forme-là, rien n'est joué encore. On peut faire plier les choses.
C'est-à-dire finalement face à une forme d'autisme actuel du Parti Socialiste qui décidément quand même s'enferme largement dans des analyses en tous les cas qui me semblent à moi fausses. Il y a la possibilité dans des associations à la marge, le mot qui peut venir tout de suite à l'esprit, ça pourrait être ATTAC, mais il n'y a pas que ATTAC, il y a aussi la Fondation Copernic, il y a aussi, y compris aussi les branches gauches, si on peut parler comme ça, du Parti Socialiste. Il y aurait peut-être la possibilité de faire en sorte que le Parti Socialiste se réoriente, ou qu'est-ce qu'il faut espérer, ou une reconstruction à gauche de la gauche, comme le...
Ça peut être une solution, c'est-à-dire si l'on considère que la politique c'est une forme de concurrence et de rapport de force, lorsque vous avez donc une force politique qui s'enferme sur elle-même, un des moyens de la rappeler à l'ordre, c'est de jouer sur les rapports de force. Donc c'est de reconstituer en fait des collectifs qui l'obligent, même si elle ne veut rien entendre, hein, qui l'obligent à prendre en considération des thèmes, des causes, des gens qu'elle n'entend plus.
Donc, faut pas complètement désespérer.
Mais il faut essayer, au moins, parce que si on commence en fait à désespérer, ben on ne fait plus rien. Il faut refuser de se taire. Lorsqu'on en a marre, il faut prendre la parole. La lutte n'est jamais finie.
Et oui, c'était des sous et des hommes. Pourtant, dans une version optimiste, hein, c'est plutôt rare qu'on finisse les émissions en se marrant. La plupart du temps, on déprime à plein bloc. Donc, c'était Nicole Ovald et sa bonne humeur. Elle a écrit, je vous le rappelle, Le populisme du FN, un dangereux contresens aux éditions du Croquant. Ça coûte 12 €, c'est accessible. Autrement, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Dessous depuis plus de 3 ans en écoute sur www.dessousetdeshommes.org avec un tiret donc entre chaque mot, Dessous et des hommes. Les 3 années précédentes avec les retranscriptions la plupart du temps qui permettent de lire en écoutant, d'écouter puis de lire ou de lire puis d'écouter au choix et de mieux comprendre tout ce que nous ont dit les 20 invités. Je vous rappelle aussi que vous pourrez trouver mon adresse, vous pourrez m'envoyer des petits mots, gentils ou pas gentils, gentils de préférence, et normalement je réponds. Voilà, à la semaine prochaine.